Puis-je vous demander, mon cher maître, combien de fois vous avez joué ici cette célèbre page ?
Je ne puis le dire. Ce dont je me souviens parfaitement, c'est d'une mémorable séance donnée avec vous pour les jeunesses musicales et consacrée entièrement à l'analyse de cette grande œuvre.
Si je ne m'abuse, vous êtes celui qui s'est le plus souvent assis devant cette console aux quatre claviers.
Je pense avoir donné ici une cinquantaine de récitals depuis 1942.
Vous souvenez-vous quels sont les grands cycles que nous avons ici même présentés au public ?
Oui. Le premier avait pour sujet les grandes formes de la musique d'orgue. Le second se composait de 10 récitals consacrés à l'œuvre de J.S. Bach. Il fut répété et augmenté l'année du tricentenaire de la mort du grand cantor en 11 séances. Un quatrième cycle avait pour titre « Grandeur, décadence et renaissance de la musique d'orgue française ». Il comprenait 6 séances.
Aimez-vous jouer cet orgue ? Et ne vous sentez-vous pas trop perdu dans cette vastitude avec cette immense salle de 2600 places derrière vous, ces 7000 tuyaux devant vous ?
Je n'ai jamais éprouvé de crainte en m'asseyant à cette console. Loin de me trouver isolé sur ce plateau, Chaillot est un des rares endroits où le public compte pour moi. Je le sens près de moi et ses moindres vibrations m'atteignent.
Savez-vous sur quel plan a travaillé le facteur d'orgue après avoir démonté à l'ancien Trocadéro l'instrument d'Aristide Cavaillé-Coll ?
González a complètement remanié l'articulation générale de l'orgue, autrefois enfermée dans un vaste buffet. Aujourd'hui, les différents plans sonores s'ordonnent de la manière suivante. Grand orgue et solo au centre, pédale aux extrémités, à l'étage supérieur, derrière les grillages, les deux claviers expressifs, positifs et récits.
Voici, pour ceux qui nous écoutent, quelques accords au grand orgue. Au positif. Au récit. Au solo. Enfin, quelques notes de pédale. De quelle équipe González disposait-il ? Et en combien de temps a-t-il reconstruit cet orgue ?
González possédait une équipe d'une douzaine de mécaniciens, menuisiers, électriciens, harmonistes. Je pense que la restauration a duré 18 mois environ.
À vrai dire, il s'agit d'un ensemble comme la France n'en possède pas d'autre, un orgue de 75 tonnes qui est mobile, qui avance sur une plateforme à la vitesse de 2 mètres à la minute, qui utilise 800 km de câbles électriques et qui ne dispose en façade d'aucun buffet de bois, puisque seule la tuyauterie de métal avec ses différents plans, ses ombres et ses lumières sert ici d'éléments décoratifs. Puis-je vous demander si González portait un particulier intérêt à cet instrument ?
Je me souviens qu'il s'y est beaucoup intéressé. Nous en avons longuement parlé ensemble, à titre privé, et je sais que son désir aurait été d'orienter cette transformation vers un plan plus proche de l'orgue classique dont il rêvait.
Vous qui avez beaucoup connu l'homme, qu'en retenez-vous ?
Un homme dont le génie n'avait d'égal que l'extrême modestie et le total désintéressement.
Si vous vous souvenez de l'ancienne disposition de l'orgue de Cavaillé-Coll, quels ont donc été les apports de González dans cet instrument ?
Sans parler des transformations apportées par González aux 66 jeux de l'orgue Cavaillé-Coll, González a ajouté 14 jeux nouveaux, tous destinés à éclairer la palette sonore de l'instrument.
Cet orgue s'adapte-t-il à toutes sortes de musiques ou bien sa palette sonore restreint-elle le répertoire que l'on y peut interpréter ?
On y peut jouer tout le répertoire de la musique d'orgue, bien que l'ensemble aurait gagné à posséder davantage de jeux de mutation, particulièrement plus de cymbales.
Le pédalier vous paraît-il répondre avec autant de célérité que les claviers manuels ? Et ce pédalier est-il riche de plusieurs jeux indispensables ?
Le pédalier répond aussi instantanément que les autres claviers et en tant que plan sonore individuel, il possède 19 jeux.
Tous ces jeux existaient-ils dans les anciennes orgues françaises ?
Non. Dans les orgues classiques françaises, le pédalier était un clavier pauvre. difficile à toucher à cause de sa forme réduite et de ses minuscules chevilles. Et il ne possédait que quelques jeux.
Alors comment jouez-vous ici un récit de tiercentaille de ce Grignier dont Bach devait recopier de sa main à 18 ans le livre d'orgue?
Lorsqu'un organiste voulait faire chanter le ténor, il lui fallait de toute nécessité jouer la basse sur le pédalier. Mais celle-ci, ne comportant que des valeurs longues, elle s'exécutait sur une flûte de 8, le plus grave des jeux de fond.
Comme quoi cet immense instrument peut nous impressionner par son grand cœur, nous faire vibrer par ses moindres jeux de détails. En voici quelques exemples qui mettent en valeur ses multiples ressources. Je pense notamment à Marchand et à Bach. Cette fameuse base de trompette de Marchand, la jouez-vous tout en staccato? Le staccato étant permis, voire conseillé sur un orgue dont les sonorités au premier abord paraissent devoir être liées.
Les Français, comme les Allemands, ont depuis longtemps pratiqué le jeu staccato. Celui-ci s'impose même tout particulièrement lorsqu'on veut faire goûter l'attaque d'un jeu d'ange.
Éprouvez-vous, mon cher maître, plus de mal à enregistrer des pièces anciennes que les pages romantiques du répertoire de l'orgue ici?
Il ne faut pas oublier que cet instrument est né en pleine période romantique, 1878. C'est dire que la majorité de ces jeux ont d'abord été conçus pour cette époque et qu'il est aisé ici de registrer, de colorer toute musique romantique.
À vrai dire, qu'entendez-vous par ce mot, cet art de l'enregistration? Au cœur de cette console aux centaines de boutons, dominos, poussoirs, que sais-je, n'êtes-vous pas là comme le peintre qui doit faire son choix entre les couleurs dont il vient de charger sa palette?
Ces boutons, ces dominos et poussoirs sont groupés avec beaucoup de logique au-dessus du pédalier, sous chacun des claviers, ou bien de part et d'autre de ceux-ci. Registrer, c'est opérer un choix au milieu de tout ce monde. Registrer, c'est opposer, c'est aussi grouper des jeux suivant certaines normes que la musique elle-même semble bien souvent nous suggérer. La question de registration serait fort embarrassante si nous ne possédions, par les différents plans d'orgue conservés dans chaque pays, la tradition de chaque école.
Si Bach ne nous a laissé, contrairement aux Français, aucune directive pour la registration de ses œuvres, en va-t-il de même avec les romantiques? Voici d'abord Schumann, le grand admirateur du cantor.
À partir du 19e siècle, les auteurs ont commencé à multiplier les indications de nuances et de registration.
On parle beaucoup de l'improvisation à l'orgue. Puis-je, mon cher maître, vous demander quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour s'adonner à cet art?
La première qualité d'un improvisateur est d'avoir quelque chose à dire et de le concevoir très rapidement. L'improvisateur doit ensuite chercher à ordonner autant qu'il le peut le plan de cette création instantanée et la colorer en utilisant au mieux l'instrument dont il dispose.
En bref, tout cela exige une présence constante au clavier et une permanente maîtrise de soi. Je vais demander à André Marchal de bien vouloir improviser sur un thème populaire. Il a choisi « Nous n'irons plus au bois » et je crois savoir qu'il va donner quelques variations sur cet orgue si coloré, si riche dans sa palette sonore, qui a été construit, je le répète, par Gonzalez quelques années avant la guerre, au moment de la grande exposition, entrepris en 1937 et inauguré en 1938.